Ok, oui, bienvenue à tous à ce débat sur la place de la femme dans le hip-hop. Alors, pour commencer, donc, on a trois intervenantes. Nadja Rek arrive, elle devait terminer une séance, elle diffusait son documentaire juste à côté, donc elle va arriver. Alors, ce débat, dans quel cadre il se passe ? Donc, il se passe dans le cadre du Festival Esperanza où vous êtes tous, mais aussi dans le cadre de Tout va bien, qui est un nouveau média lancé, entre autres, par le festival. Et donc, on réalise ces débats dans ce cadre-là. Et donc, moi, je m'appelle Nadia et je modérerai le débat aujourd'hui dans ce cadre. Alors, dans les intervenantes que vous avez ici, on a Lisette, qui est Lisette Lombé, qui est une artiste multifacette. Elle est passionnée de poésie et elle a créé un groupe qui s'appelle El Slam, dont elle vous parlera tout à l'heure. Et c'est un collectif, effectivement, de femmes de femmes poètes, en fait. Donc, elle expliquera un peu plus tout à l'heure exactement ce que c'est. On a Fatima Elajmi, je ne me trompe pas, qui travaille pour Souterrain Productions et qui a lancé en fait le festival La Belle Hip Hop, qui est un festival 100% belge et qui met à l'honneur en fait les femmes dans le hip hop. Et puis après, on a Nadja qui va arriver d'une minute à l'autre, mais on va commencer parce que je suis sûre que vous avez tous d'autres choses prévues pendant ce festival. Donc Nadja est une réalisatrice amoureuse de hip-hop et elle a réalisé un documentaire sur les big girls, donc les femmes qui font du breakdance, dont elle vous parlera aussi tout à l'heure. Alors, je propose d'introduire ce débat par un petit slam de Lisette. Donc je la laisse.
Bonjour. Voilà, il faut une première pour tout texte. Ben voilà, c'est la première pour ce texte-ci, en tout cas. On raconte que là-bas, les poètes se cognent les uns aux autres, comme une brique sur la tête d'un ennemi. On raconte que là-bas, le sol est jonché de milliers et de milliers de feuilles blanches, et que chacune de ces feuilles blanches a appartenu à un poète, à une personne abandonnée par les mots. C'est un no man's land, un terrain vague, un gisement mort entre les strophes. Tous, nous connaissons ce lieu. Tous, nous connaissons cette peur de ne plus être à la hauteur du texte précédent. Tous, nous redoutons cet appel de la synchronicité qui ne se chorégraphiera en rien. Alors nous nous répétons, mantra, mantra, nous nous répétons, mantra, mantra. Cela ne peut pas ne pas avoir de sens, cela ne peut pas ne pas être un signe, cela ne se peut. Et les jours passent, on s'échine, on s'obstine, pas une ligne, pas une rime, feuille blanche. Je dois écrire, je peux écrire, je veux écrire, je peux le faire. Feuille blanche, apnée, souffle court, apnée. On s'aigrit, on s'agrippe à la fausse perle, la fausse pépite, la pâle copie. Déjà vu, déjà lu, déjà dit, prête à porter, prête à rapper, prête à slammer. Et puis soudain, ceux qui reviennent de là-bas parlent d'alignement foudroyant et de renaissance brutale. Soudain, ton poème est là, devant toi. Tapis rouge qui se déroule, comme écrit, comme sorti, comme jailli d'un autre que toi. Certes, ton poème est encore à ciseler. Certes, ton poème est encore à apprivoiser. Mais il est là, coup de poing immobile. Coup de poing immobile, au milieu de milliers et de milliers de feuilles blanches qui se mettent à tourner, à tourner et à tourner autour de lui. C'est une invitation à t'agenouiller. C'est une invitation à enfin écouter ce que ton ventre, ce que ton bite, ce que tes tripes ont à te dire. Alors tu demandes à haute voix, cet autre que toi, mais qui sont tous ces mecs ? Qui sont tous ces mecs qui se pressent dans mon nouveau texte ? Qui sont tous ces mecs ? Il en sort de partout, ça grouille, ça bavouille, il en sort de partout, ça se presse à chaque paragraphe, il en sort de partout. Hashtag MeToo, hashtag balance ton porc, hashtag, hashtag, il en sort de partout. Il y a les gros lourds des transports en commun, les frottis-frotteurs, les hé, mademoiselle, les plaquants, les planqués, les losers, les chasseurs, les pas vus, les pas pris. Et il y a l'oncle pansu, le baby-sit psychotique qui te course torse nu avec une fourche à la main, version trash de cache-cache, si je t'attrape, je t'empale, et le coach de baskets qui te coincent dans le vestiaire. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette et qui gagne ta culotte et qui gagne ta chaussette, du matos de première pour s'astiquer en cachette. C'est la famille. La grande famille. La famille sans frontières, au-dessus des lois, au-dessus de toi, au-dessus des droits. Alors tu demandes combien ? Combien de femmes dans cette famille ? Tu demandes combien de mères, combien de vagins en puantis ? Tu demandes combien de tantines, combien de cousines pour un seul de ces mecs restés impunis ? Pour chaque Weinstein du dimanche, pour chaque pseudo-DSK, pseudo-Woody, pseudo-Cosby, tu demandes combien ? Combien de sœurs sous les silences, sous les sourires, sous les convenances ? Combien de déglingués, de zombies, de dézingués, de pommes pourries, de cramés, de barches, fêlés, fanés, foutus ? Combien de ventres morts, de fantômes, de fautifs, de fins de filles, de fins de vie ? Combien ? Dites-moi. Combien ?
Merci, merci Lisette. Que tout le monde s'installe, installez-vous, on vient de... Voilà, il y a encore des places derrière Marie et Bernard là-bas, donc n'hésitez pas à vous installer. Oui, pardon, je vous indique, je vous pointe du doigt. Et merci à eux d'ailleurs et à Thomas aussi pour l'aide pour le débat. Alors, ben on va tout de suite commencer. En fait, j'avais noté pourquoi tu as choisi ce slam, mais je vais te laisser l'expliquer, mais je crois que j'ai compris. Mais vas-y.
Oui, je ne sais pas si ça fonctionne. Il est en lien avec voilà, une des thématiques qui est traitée ici, et il est en lien avec ce pourquoi je milite aussi. Après, ça pose la question, au cœur du slam, il y a la poésie engagée, et ça pose la question de comment on transforme une colère en quelque chose de poétique, et comment on passe du jeu au nous, et comment on n'est pas dans le témoignage, mais comment on a un travail sur la langue, sur le texte.
Tu as créé une association qui s'appelle El Slam, dont on a parlé tout à l'heure, pour soutenir donc, les femmes dans l'exercice de cette pratique qu'est le slam. Pourquoi tu l'as créée ? C'est quoi exactement ton association ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui. Alors, c'est une association liégeoise qui existe depuis 2015. Et en fait, l'idée, c'était, si vous voulez, le slam... Donc, on ne réexplique pas ce que c'est le slam.
Tu peux y aller, vas-y.
Non, ça va. Mais peut-être sur certains. Simplement, cette belle idée d'avoir refait descendre la poésie dans les bars, enfin dans des lieux accessibles, et de permettre à chacun, parce qu'il y a une magnifique égalité de temps de parole, c'est-à-dire que normalement c'est 3 minutes, et qu'on soit grand poète, édité, ou qu'on soit première scène, tout le monde a le même temps de parole. Donc dans cette belle scène. Et ce qui est beau dans le slam, c'est qu'il y a une énergie qui circule. À la fois on est spectateur et puis on monte sur scène, alors que quand on va voir un concert, ben, on reste spectateur. Et donc du coup, ce que j'ai eu comme intuition en 2015, c'est que c'est un art qui, par les micros ouverts, par les scènes ouvertes, se dit totalement démocratique, donc c'est ouvert à tout le monde, mais qu'il y avait un manque de questionnement sur comment est-ce que les gens arrivent là sur scène. Donc comment est-ce qu'ils ont l'info et comment est-ce qu'ils osent aller pour la première fois sur scène. Et là, on n'était pas égalité homme-femme. Simplement parce que les scènes, elles sont organisées. Donc, il n'y a pas de réflexion sur la mobilité. Si les scènes sont organisées super tard la semaine, qui est en capacité de venir là et surtout qui est en capacité de repartir ? Ça pose la question, il faut être à l'aise avec l'espace public, à savoir le scénique et aussi à l'extérieur. Et puis, nous, on a porté un regard genré sur cette scène-là en se disant l'espace scénique n'échappe pas à la société. Donc, ce n'est pas qu'il y a une barrière, tout d'un coup, on serait libre, etc. Et on a vu que, si vous voulez, à titre individuel, toutes mes copines slameuses, c'est des femmes fortes, elles viennent prendre la parole, etc. Mais on pose la question à un niveau plus global. Et donc, moi, je travaille sur la question de la réception de la parole. Vous avez vu le texte là avant. Moi, mes débuts de slam, je ne bougeais pas, donc c'était très ancré, mais très statique. Il y a eu un travail de coaching scénique pour aller chercher une énergie là. Moi, je ne viens pas du milieu rap, donc je n'ai pas naturellement ni de la scène. Je n'ai pas cette énergie-là. Mais il faut que vous sachiez qu'en tant que femme, quand on n'est pas, on ne vient pas des arts de la scène, et l'expression, c'est ceci, écarter les jambes, c'est-à-dire je vais devoir me lever, écarter les jambes, être bien sur ses guiboles, etc., pour être juste scéniquement, je dois faire une sale gueule, je dois transpirer, je dois postillonner, etc. Et donc tout ça, ça s'apprend. Et donc si vous voulez, mes amis slameurs, quand ils font un texte très engagé physiquement ou très engagé dans la thématique, on va dire ils envoient la sauce. Il est là, le mec, il envoie. Mais moi, si je fais le même texte, ça n'a pas la même... Elle envoie la sauce, ben voilà, elle est hystérique, elle est colérique, elle est je sais pas quoi, etc. Donc on doit faire un travail supplémentaire avec les femmes qui est de couper la corde. Je peux pas être à la fois sur scène et être à la fois en train de me regarder, de me juger, de me critiquer. Il y a un petit travail en plus à faire. Voilà.
Et du coup, dans ton collectif, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous travaillez?
Alors, on a une partie écriture, parce que comme le slam, c'est à l'intersection de la littérature et des arts de la scène, il faut un texte, mais pas toujours. Donc, on peut créer le texte, mais moi, je ne suis pas partisan de ça. Je pense que le texte s'écrit avec les tripes quelque part ailleurs au râtelier. En tout cas, on donne l'envie et des portes pour que les personnes comprennent que c'est un texte qui va être partagé, qui est une espèce d'énergie, de tension pendant les 3 minutes. Et donc, on va tendre l'écriture par rapport à un atelier d'écriture classique. On tend l'écriture vers l'oralité. Donc, on trouve des pistes dans la musicalité, dans la rythmique, dans le relief, etc. Donc, on va le tendre. Et après, on a une partie de coaching scénique qui est comment est-ce que collectivement on grandit. Parce que vous sentez bien que dans le slam, dans un micro ouvert qui dure 3 heures, on dit que le slam, c'est un art de la parole, mais sur 3 heures, en fait, on passe que 3 minutes. Donc, c'est un art de la parole, mais c'est surtout un art de l'écoute. Et c'est dans cette écoute-là qu'on grandit, avec des univers à l'intérieur des 3 minutes, c'est totalement libre. Donc, je peux avoir un flow très lent ou un flow très rapide, façon rappeur, mais il y a plein de conteurs, il y a plein de paroliers, il y a plein de gens qui ne viennent pas du tout du milieu du rap. À l'intérieur des 3 minutes, ma thématique, ben, je la choisis aussi. Elle est sociétale ou elle est très intimiste. Donc ça, je suis libre à l'intérieur. Mais ce qu'on essaye de faire en coaching scénique, c'est que, bon, moi je vais dire les femmes parce que je bosse avec 98% de femmes, c'est que les femmes, elles ont une écriture qui viennent en atelier, elles ont une écriture là. Et si ce n'est pas assumé, ce texte, c'est comme si elles étaient en dessous du texte. Donc avec le coaching scénique, on permet simplement aux personnes d'être à la hauteur de leur texte et de donner au texte sa pleine puissance poétique, tout simplement.
Merci Lisette. Je propose qu'on passe à un petit extrait vidéo que j'avais envie de montrer pour vous faire réagir.
À première vue, la compatibilité entre le féminisme et la culture hip-hop est faible. Des fesses qui rebondissent, des femmes potiches symbolisant la réussite au masculin, une sexualisation à outrance à laquelle même les rappeuses participent. Le sexe fait vendre. Mais est-ce une explication suffisante ? En français, pute ou salope, un mot qui choque, mais qui dans l'univers du rap résonne comme un titre honorifique. Boss ass bitch, rich bitch, queen bitch. La bitch avec un B majuscule s'assume seule et ne doit son succès qu'à elle-même. Renversant parfois les codes, elle fait de l'homme sa chose. Son univers s'inspire de celui de la prostitution. Pose lascive, barre de pole dance, liasse de billets, veste en fourrure. La bitch tire avantage de son corps pour obtenir ce qu'elle veut. Ses aspirations sont surtout matérialistes. Elle rêve de bijoux, d'une belle voiture, de luxe et de voyages exotiques.
C'est vraiment cette idée de s'émanciper économiquement, en fait. C'est-à-dire que la libération du peuple noir, en général, passe par une émancipation économique. En fait, leur stratégie, c'est plus d'inverser les stéréotypes sans vraiment les questionner, parce que finalement, c'est comme reprendre, comme on dit, les armes du dominant.
Merci. Donc, Fatima, tu as créé le festival Label Hip Hop qui met à l'honneur les femmes. Est-ce que cette partie-là, c'est représentatif du rap des femmes ou pas vraiment?
Quand j'ai créé le festival Label Hip Hop.
Bien dans le micro, bien, très proche.
Donc en fait, le festival a été créé une première édition en 2017 sur base d'expériences d'événements qu'on avait fait au féminin. Parce que l'idée, justement, c'était donner la place aux femmes. Et aujourd'hui, on voit un petit peu que, voilà, elles s'affirment un petit peu chacune de manière différente. La femme, comment elle s'affirme aux États-Unis, c'est pas comme elle s'affirme en Europe, parce que voilà, les vécus, l'univers est différent, l'approche est différente. Donc, c'est une manière, comme elle expliquait là juste un instant, de peut-être réinverser les stéréotypes, mais surtout aussi de prendre sa place. Maintenant, bon, tout ça a été un peu vu de manière différente, critiqué, pas critiqué, mais voilà, je pense que chacune prend sa place comme elle le sent et le message qu'elle veut véhiculer à travers son expérience. Donc voilà, moi par exemple, le festival qui a été créé, donc la Belle Hip Hop, met la place des femmes à l'honneur et chacune, donc toutes ces femmes qui viennent sur la scène, viennent d'horizons différents, viennent d'expériences, de vécus différents, et chacune, comment elle l'exprime à travers la culture hip-hop.
Et donc, quand tu dis culture hip-hop, on parle bien de différentes disciplines.
Exactement. Donc, c'est le rap, le DJing, la danse, le graffiti, et bientôt le slam aussi.
Et pourquoi est-ce que, enfin, au-delà de mettre la femme... ton objectif, en fait, du festival, c'était de mettre à l'honneur les femmes, tout simplement.
Tout simplement, oui.
Et tu as eu des contacts avec d'autres festivals à l'étranger? Comment ça se passe aussi au niveau... est-ce que c'était une première, en fait, ce type de festival?
C'est une création 100% belge. Donc ça, c'est très important de le dire. Voilà, on n'est pas dans un événement, quelque part, qui a recalqué quelque chose qui s'est déjà fait quelque part. Là, non, on a décidé de créer ça sur la Journée internationale des droits de la femme, sur 8 jours. Sur 8 lieux de la capitale et en invitant 8 pays des 4 coins du monde. Et justement, là, on est même dans l'idée d'exporter notre création belge vers l'étranger.
J'ai pu lire qu'en 10 ans, il y avait seulement 3 MC féminines qui ont été couronnées disque d'or, donc chez Kenyarkana et Diams. Mm-hmm. J'ai lu aussi que, en fait, malgré le fait qu'en fait dans notre public de rap, il y a, de femmes qui aiment le rap, il y a 40% de femmes, mais qu'en fait il y a seulement 5% des albums qui sont publiés par des artistes féminines, dont seulement 3% qui ont dépassé les 500 000 exemplaires. Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on peut réduire la lecture du rap en général à ces chiffres-là que je te donne?
Moi, mon avis, c'est que je pense pas qu'on va réduire des pourcentages sur base que voilà, c'est des femmes, ben forcément ça va vendre moins. Là, je partage pas cet avis-là. Je pense que l'idée principale est le talent. On a eu Diams, je veux dire ça, tout le monde sait, ça a été un succès énorme. Et si on doit comparer, si on a juste Beyoncé aux États-Unis, elle vend clairement plus que des hommes. Donc là, je pense que c'est vraiment une question de talent en soi. Et pas vraiment une question du fait que ce soit des femmes qui vendent ou pas, en fait.
Bah, Diams a une citation, donc elle dit que « Je n'ai jamais prétendu être mieux que d'autres, mais je sais juste que mes concurrentes sont des concurrents. Je n'ai pas de concurrents femmes. Aujourd'hui, ce n'est pas Princesse Agnès, Sté ou Lady Sti qui me mettent la pression. » Elle parle de l'époque où elle était, voilà. « C'est Booba, Sniper, Tandem, des mecs avec qui je me retrouve en studio. Je ne trouve pas forcément que les filles dans le rap aient un niveau incroyable. » C'est toujours vrai ?
Non, l'évolution, elle est là. Je pense qu'aujourd'hui, non. Là, je pense que c'est vraiment le talent qui est mis en avant. Et voilà, mais elle le dit aussi, je n'ai pas de concurrente des concurrents. Donc voilà, c'est une scène qui est ouverte à tout le monde. Je pense que voilà.
Merci. Je vais vous passer un petit extrait d'une rappeuse. Et puis après, je passerai aux questions à Manager.
Ferme ta gueule si tu ne viens pas de la terre. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête. Pas dans l'attente de votre reconnaissance. Le hip-hop hybride entame sa renaissance. La misogynie sans cesse omniprésente. Sur les réseaux, pas de limite, c'est exaspérant. Quand t'es agressif, fais le pélo. quand t'es pas sexy, fais le pélo. Si tu fais des thunes, t'es une salope. Même avec un pull, t'es une salope. Traumatisées seront les ondes. L'heure du combat arrive, sonne le gong. La petite est validée par tous les ongles. J'suis pas là pour me faire apprécier des cons. Ouais, tu seras témoin des dégâts. T'es pas précédeur, Kane, ça va sur toi. Les aigles et les pigeons ne se mélangent pas. J'ai tout ce que tu n'as pas donc. J'suis cette sale chienne. Celle qui n'a rien demandé. Celle qui n'a pas quémandé. Celle qui vient te démanger. Celle qui t'a bien dérangé. J'aurais beau rappeler la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine. Chienne. J'aurais beau tarter des milliers d'aimes si les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Chienne. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la terre. Chienne. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôter la tête. Fous le seum, celle qui débarque au milieu.
Donc Nadja, j'ai choisi cet extrait parce que effectivement, toi dans ton documentaire tu parles des femmes qui break, donc des big girls, mais je me dis, tiens, Sheila, elle parle dans cet extrait de la difficulté aussi de rapper dans un monde d'hommes. Est-ce que c'est similaire à ce que vivent les big girls?
Oui, on m'entend là? Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité au festival. Parce que moi, je n'habite pas en Belgique, donc je suis très honorée d'être là. Donc je tiens vraiment à remercier le festival et son équipe, donc avant de débattre. Oui, effectivement, la question se pose en fait en ces termes-là. Ce que j'aime en fait là dans l'extrait que vous avez montré par rapport à cette artiste, c'est qu'elle n'utilise pas les attributs, on va dire, connotés sexuellement, mais elle utilise les textes. Et c'est ça son arme pour dénoncer, et elle retourne en fait l'arme contre, on va dire, le monde masculin et patriarcal en titrant son morceau Chienne. Et moi je vais plus être dans cette optique là, c'est-à-dire bon allez, armes égales, allons dans l'arène et exprimons-nous comme tu l'as fait assez joliment tout à l'heure. Donc moi je trouve que c'est ça qui est important. C'est-à-dire, plus il y aura de rappeuses, plus il y aura de big girls, et moins il y aura d'inégalités, finalement, en fait. C'est juste laisser la place aux femmes, en fait. C'est ça, en fait, le problème qui est central.
Est-ce que le problème, c'est qu'elles n'ont pas la place parce que c'est un univers principalement masculin ?
Ben, c'est plus complexe que ça. Enfin, je pense que déjà, les événements en eux-mêmes ne leur donnent pas autant de place. C'est-à-dire, on leur donne une petite place. Ah ben, exceptionnellement, il y a un battle de big girl. Exceptionnellement, on va avoir une rappeuse. Comme si c'était une exception, en fait. Si déjà, les événements donnaient plus de place, déjà, je pense que ça irait beaucoup mieux.
Il y a un peu aussi le concept dans ton documentaire, les filles, elles parlent d'être un peu des survivantes, quoi, finalement. Et je crois que toi aussi, tu parles de ce concept de survivante. Au final, on a dû être un peu warrior, quoi, pour arriver jusque-là.
Bah, écoute, on peut parler aussi du milieu du cinéma, du milieu de l'audiovisuel. Je veux dire, moi, je suis une documentariste, donc je suis une warrior. On n'est pas beaucoup. Je crois qu'on doit être même pas 5% de réalisatrices. Donc, je pense pas que ce soit vraiment propre. Enfin, je sais pas. Peut-être que je dis des banalités, que ce soit propre au hip-hop, mais en fait, dans la vie, la vie est un éternel combat déjà pour s'affirmer déjà en tant que femme, de sortir le soir librement, de manger ce qu'on a envie de manger, d'avoir le corps qu'on a envie d'avoir. En fait, on est souvent désigné parce qu'on est en fait, on est un produit vendeur en fait. Notre corps est constamment à vendre. Finalement, on le voit partout. Et quand on parle des rappeurs, c'est les premiers qui utilisent notre corps pour le vendre. Et peut-être que, en fait, les salopes et les putes, c'est peut-être plus eux que nous, les femmes. Je veux dire, enfin, je dis ça peut-être un peu crûment, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, on est toujours dans le business, en fait. Tout ça, c'est une question de business. Le sexe se fait vendre. La pornographie est de plus en plus présente. Elle est partout. C'est l'époque dans laquelle on vit. En fait, moi, j'ai commencé à filmer. Voilà, on n'était pas beaucoup. Il y avait allé tout au plus 5 big girls. Aujourd'hui, il y en a des centaines partout. Les rappeuses, c'est pareil. Je veux dire, vous parlez de Diams. À l'époque, voilà, vous en avez cité 4-5. Aujourd'hui, il y a combien de rappeuses? Et à l'époque, il y avait comment elle s'appelle, tu sais, la rappeuse Lil Kim. Des Lil' Kim, c'était un scandale. Il y en avait deux comme ça, deux, trois. Maintenant, elles sont pratiquement toutes aux États-Unis, hein, faut préciser. Elles sont à peu près toutes, on va dire, représentantes de cette espèce de d'image sexuelle de la femme. Et elles en jouent et elles sont là pour faire du bif. C'est la vérité. Après, est-ce qu'elles ont du talent ? Certaines, oui, elles en ont. En plus.
Je vous propose, du coup, j'avais envie aussi d'un peu questionner comment ce qu'on voit du rap aussi en tant que rap masculin. Et on a souvent dit le rap est misogyne, etc. Donc j'ai passé des extraits de musique qui ont pu être qualifiés de misogyne, de rappeurs. Et après, j'aurais une petite question à vous poser à toutes les trois.
La Gola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouas, tchouas, tchouas. La Gola, c'est peut-être une fille bien, mais on préfère les tchouas, tchouas, tchouas. Elle veut l'Ubuda, d'un tchouas. Elle veut mon boussin, ça, tchouas. Vrai ou faux, ça, tchouas. Tchouas, tchouas, tchouas. Je rentre avec DJ Maxa et l'autre, tu t'assois sur mes cuisses.
Damn, bitch, j'ai une Puerto Rican, j'ai une bad bitch. De loin, je vois que ton boule nous vient du Mexique. Maman, si toi tu sais combien je t'estime. Yeah, bitch.
La fois dernière, j'étais en boîte et je vois une meuf qui me regarde. Je m'approche d'elle, je lui dis quoi? Elle me dit vas-y dégage, bon ok, là je lui mets une baffe. Là-dessus, la meuf me saute dessus, puis elle m'embrasse. J'ai même pas dû demander pour qu'elle me suce, c'est dans la caisse. Sa copine arrive, elle dit qu'est-ce que vous faites? L'autre répond qu'elle, je lui dis fous-toi à poil, on fait la fête, y'a pas d'arnaque. Je pense que je suis énorme, j'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Je dis tu sais, 30 cm, c'est pas tant que ça.
Ben donc j'ai une question à toutes les trois. Est-ce qu'on peut être féministe et aimer ça? Donc il y avait Caris, il y avait James Dino, il y avait Niska, je pense, c'est ça, et Hamza aussi. Est-ce qu'on peut être féministe et aimer ce style de rap aussi?
Moi je dirais ouais. Moi j'écoute Booba. Hein. J'ai pas, y a pas, les... pardon, j'écoute Booba, donc je le salue de là où il est, hein, de sa cellule. Si on écoute par exemple la chanson Soul, je crois que c'est Soul du premier album d'NTM, ça existait déjà, il y avait déjà des lyrics comme ça. Si on voit les premières pochettes des albums d'Ice-T, pareil. Alors est-ce que ça m'a empêché d'aller voir en concert Ice-T? Non. Est-ce que ça a questionné ma féminité? C'est une question très complexe. Hein. Je ne saurais pas comment y répondre, comment répondre à cette question, mais peut-être que personnellement, je sais faire le tri, mais j'en pense pas moins, quoi. Je veux dire, j'avoue que quand je zappe sur les chaînes de clips, la majorité des images que je vois, c'est des images de string. Et je sais pas, dans la vie, c'est pas ce que je vois, donc je me dis voilà, c'est un outil de vente, quoi. C'est un outil de business, mais c'est toujours putassier, quoi. Je trouve ça putassier. Donc est-ce que ça y a un rapport avec ma féminité? Après les lyrics, j'écoute plus par exemple du rap engagé, moi personnellement. Ça m'arrive d'écouter ces morceaux, mais j'écoute pas là Charco, là tout ce qu'on a entendu là. Il y a des trucs que j'écoute pas. Il y a des trucs que j'aime bien, mais j'aime pas tout. Voilà.
Lisette ou Fatima, vous voulez réagir?
Ce que dit Nadia, c'est vraiment ça en fait. Je pense en fait que voilà, moi personnellement aussi, c'est le rap plutôt conscient, des choses qui ont vraiment un message à apporter pour un petit peu changer les mentalités. Après voilà, il y a tout ce qui est un petit peu sur le marché, qui se vend bien, qui plaît. Et puis moi, ce qui me concerne, c'est entendre sans écouter. Mais les personnes qui peuvent écouter ça sans problème. Et après, si ça a à voir au niveau de la féminité, je pense pas.
Oui, moi je me dis, j'essaie de dissocier Bon, bah parce que voilà, il y en a qui ont un beau flow, etc. Puis au niveau du texte, ça ne suit pas forcément. Et je me dis aussi de dissocier les lieux, la militance et l'artistique. Parfois, c'est bien imbriqué, mais parfois, c'est... Avec l'affaire d'Amso, ce qui s'est passé, c'est que chacun fait son job. Les féministes, le mec, il fait son job. Et les féministes, elles traquent les stéréotypes sexistes partout. Donc le rap ne va pas y échapper. Le seul truc, c'est que exactement comme nous, en tant que féministes, on ne va pas s'en laisser compter, on ne va pas se laisser donner des leçons de l'extérieur, etc., sur c'est quoi être une féministe, c'est quoi machin, etc. A contrario, c'est la même chose. C'est normal que ça a crispé, parce que ça venait de l'extérieur, et que probablement cette révolution-là, sur les textes, sur les valeurs, etc., viendra de l'intérieur, par des comme déjà il y a en rap conscient, etc. Ça vient de l'intérieur, par des personnes qui sont sensibilisées à ça, et qui sont arc-boutées sur leurs valeurs, si un peu la branche sur laquelle elles sont assises, dans le business, etc. Et donc voilà, mais ça va se faire, c'est de là.
J'ai envie de laisser un peu de temps aussi pour des questions au public. Et donc, Thomas va vous faire passer un micro. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser aux intervenantes ?
Oui, bonjour. Est-ce que vous... Point de vue radio et différents canaux, est-ce que la place est facilement accessible pour les femmes ? Passer les titres, alors que essentiellement, c'est plutôt des textes engagés féministes qui ne sont peut-être pas fort vendeurs.
Juste pour préciser, c'est pas. Enfin, après, je vous montrerai, mais il y a quand même une grande diversité dans le style de rap féminin, tout comme il y en a pour les hommes, en fait. Mais j'aurai un petit jeu après à vous proposer, si vous voulez. Mais, peut-être vous voulez répondre ?
On prend plusieurs plutôt, non ?
Ah, on prend plusieurs questions.
En fait, ce que je trouve qui est le problème dans le rap féminin, c'est que même si on s'intéresse fortement au rap, c'est difficile de trouver des artistes qui nous plaisent parce qu'elles sont moins vues à la radio, elles sont plus difficilement trouvables que sur n'importe quel type de plateforme. Donc c'est difficile de trouver une rappeuse qui rappe bien, qui est dans notre style et qui peut-être défend nos valeurs ou simplement qui a un style qui nous plaît. Donc est-ce que vous avez différentes plateformes, différents événements où on peut trouver un assez grand panel de rappeuses et où on peut découvrir ce type de musique ?
On va prendre votre question et puis à la répondre.
Moi, bonjour. Je me demandais dans quelle mesure vous pensez que le problème du sexisme, quelle partie vient exclusivement du rap et quelle partie se retrouve dans toute la culture populaire ? Parce que moi, mon sentiment, c'est qu'on pointe souvent le sexisme dans le rap pour faire taire le rap de façon générale et qu'on ne se concentre pas beaucoup sur le sexisme dans, par exemple, d'autres chansons françaises. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il y a du sexisme en plus qui vient du milieu du rap et qu'est-ce que vous pensez qui crée ça dans cette culture hip-hop ? Voilà.
Allez-y, je propose de répondre aux questions. La première qui a envie de répondre peut y aller.
Moi, je voudrais répondre à ta question au niveau des plateformes de rap, de rappeuses. Disons que quand la belle hip-hop a été créée, c'est justement mettre en avant le talent féminin. Donc, par exemple, l'année passée, cette année, on a eu des artistes un petit peu des États-Unis, de l'Inde, de Turquie, du Maroc, d'Angleterre et tout ça, de France. Justement, c'est pour mettre sur la scène ce talent et montrer que finalement, c'est universel. Pour parler de plateformes, il y a pas mal de plateformes. Je veux dire, même rien qu'en France, Madame Rap a une plateforme où elle met en avant tout un panel d'artistes femmes, aussi un peu partout dans le monde, avec des extraits du rap. Donc moi, je t'invite à aller sur ce site et tu peux trouver un petit peu diversité de talents féminins.
Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Au niveau des radios, le rap féminin passe. Je veux dire, c'est pas un obstacle. Et je reviens en fait sur la même ce que je disais tout à l'heure. Ça reste le talent. Donc, je pense pas que ça soit quelque chose de, je veux dire, de qui bloquerait. Non.
Je peux dire un mot moi sur Kenny Arcana, pourquoi elle passe pas à la radio, parce que c'est une artiste engagée qui dénonce, c'est comme quand on passait pas les Berrues à la radio, c'est pareil, je veux dire. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est spécifique au rap quand on parle de sexisme? Parce que le rap en fait ça fait vendre, c'est ce qui fait le plus vendre en fait en ce moment. Donc tout et c'est les polémiques, les histoires, les embrouilles, tout le monde a les yeux rivés vers le rap. Je veux dire, il est partout le rap. Je veux dire, le nombre de clips, de chaînes consacrées. Il y a des rappeurs toutes les semaines maintenant. Je veux dire, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. C'est vraiment la musique. Enfin, je sais pas, moi que je me trompe, la musique dominante. Donc il y a aussi le fait d'être visible, c'est-à-dire de montrer tous ces signes extérieurs de richesse, tu vois, les bagnoles, les flingues. Il y a toute une iconographie comme ça qui est médiatisée. Regarde l'affaire Boubacaré, je veux dire, on en a parlé pendant une semaine en boucle. Je veux dire, c'est quand même hallucinant.
Peut-être précise pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'affaire Boubacaris.
C'est deux rappeurs qui sont battus à l'aéroport d'Orly. je suis sûre que tout le monde connaît l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant cette question aussi sur est-ce que c'est spécifique au hip-hop, la question de l'image dégradante de la femme. Regarde les productions aussi hollywoodiennes, les films, les chansons à texte aussi de peut-être françaises. Après, j'en connais pas, je suis pas très 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 calé là-dessus, mais c'est diffus, c'est très diffus. Mais je pense que c'est parce que c'est visible qu'on parle aussi du hip-hop et peut-être qu'on montre plus de string, peut-être aussi plus de fesses rebondies. De femmes dénudées, il y en a plus dans les clips de hip-hop. Si on peut appeler ça du hip-hop.
Lisa, tu veux réagir?
Moi, j'ai un positionnement féministe intersectionnel, donc du coup, je suis obligée de le coupler, l'antisexisme, l'antiracisme et l'anticapitalisme. Donc il faut voir la couleur aussi des gens qui font du rap, et il faut le replacer dans une société, voir ce qui se dit sur cette société, donc je pense que ce n'est pas... que ce soit là, attaqué là, dans cette société-là, voilà. Il faut aller chercher aussi de ce côté-là.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais encore une question. Est-ce que, finalement, dans ce monde d'hommes, comment est-ce que la femme peut vivre sa féminité? On le sentait un peu dans ton documentaire, Nadja, mais... T'as des filles qui adoptent des codes très masculins et qui s'habillent un peu comme Sheila Envoie ou Kenny Arcana, limite, elles masquent en fait leur forme féminine. Et puis, il y en a qui vont plutôt du côté on assume, comme peut-être dans le rap plus US, on met en avant très fort le corps féminin, on assume un peu le côté bitch. Comment est-ce que du coup, le rap aussi questionne un peu la féminité, qu'est-ce que la féminité d'une femme?
Oh là là, comme dirait Valentine dans mon documentaire Big Girl Valentine, on est des femmes, on est des femmes depuis le début. Et effectivement, c'est toujours le corps féminin est constamment pris en otage en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on vous regarde, on vous reluque et on se dit « Oh là là, elle n'est pas féminine » ou « elle est bien féminine, elle a un beau petit cul, elle a des beaux seins ». C'est comme ça qu'on est identifié dès le départ. C'est aux hommes qu'il faut poser cette question-là, finalement. Ce n'est pas aux femmes. Nous, on est bien à notre place, on va très bien, en fait. On est très bien avec notre féminité, qu'elle soit camouflée, en fait, pas camouflée, mais s'il y a des femmes qui sont plus à l'aise avec des bonnets, avec des baguilles, ou avec... là, en ayant vu hier Chila, elle était en jean, mais elle avait un petit haut qui était, on va dire, féminin, parce qu'elle montrait un petit peu son ventre, mais bon, elle avait un rap, on va dire... En fait, quand le rap est fort et engagé, ça y est, il est masculin. Ou quand Diams, elle rappait, on dit elle rappe comme un mec. Non, elle rappe comme Diams ou Chila, rappe comme Chila. Voilà, en fait, c'est il y a une part de féminité en chacun, il y a une part de masculinité, en chacun aussi. Donc voilà, moi c'est plus des fois j'ai envie de mettre des boucles d'oreilles, des fois j'ai pas envie d'en mettre. Voilà, laissez-moi tranquille, quoi.
Tu veux réagir aussi ?
Après, il y a des regards éduqués. Moi, je prends le même texte de slam. J'ai du texte un peu plus. J'avais de la poésie érotique que je pouvais pas passer en slam parce qu'en slam, on peut pas venir avec des accessoires. Donc voilà. Bon, bref, le lieu s'y prêtait pas. Donc je suis allée en cabaret burlesque pour les faire. Donc du coup là, on a des corsets, je mets une perruque, j'ai un personnage, etc. Et le texte n'est pas reçu de la même manière. Donc du coup, je suis perçue quand je vais en cabaret comme quelqu'un de sexy. C'est le même texte. Donc il y a un contexte, il y a un regard. Et on a juste envie de dire écoutez le texte. Moi je suis venue ce matin, j'ai demandé à ma fille parce que j'ai les cheveux courts pour mes enfants, mes trois enfants, ils trouvent que je ressemble à un mec, quoi. Je suis plus leur mère, donc ils se demandent. Alors ma fille m'a obligée à mettre des boucles d'oreilles pour quand même que je vienne un peu un peu femme, quoi. Voilà, je garde.
Finalement, qu'est-ce que vous voulez dire en fait aux femmes qui veulent se lancer dans le hip-hop, qui veulent se lancer là-dedans ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aussi pour les encourager ou faire en sorte qu'il y en ait plus ?
Il faut des programmatrices. Il faut qu'elles se fédèrent. Nous, dans le slam, c'est les slameuses. En slam, il y a une championne de Belgique, une championne d'Europe, une championne du monde de slam. Et pourtant, en concours, ça reste... Mais en fait, on ne peut pas y aller seul. Il faut se fédérer, il faut des lieux pour qu'on montre notre art, il faut qu'on soit ensemble, et il faut se professionnaliser. La question de la professionnalisation, ça passe par le statut, en Belgique, statut d'artiste, etc. Et ça passe aussi étrangement par des formations. Nous, les lance à Liège en septembre, des formations où on va parler question d'argent. Parce que les filles, à titre individuel, d'aller être programmées et parler de cachet, de parler de contrat, etc., c'est extrêmement difficile. Or, la professionnalisation, elle passe par là aussi. Donc, ce n'est pas pour aller dans du grand capitalisme et dans des bazars comme ça, etc. Mais moi, je redis chaque fois, c'est pour une question de santé mentale et physique sur le long terme. Donc, pour garder ce bel équilibre au finish. Parce que sinon, le feu s'éteint aussi. Si on peut pas discuter de cette question du statut et si on ne peut pas mettre la question de l'argent sur la table.
Moi, je pense, voilà, avec l'événement qu'on a de la Belle Hip-Hop, c'est déjà une démarche d'encourager les jeunes et d'encourager justement les jeunes talents à y croire. Et surtout, quand on a une scène internationale, c'est d'autant plus des preuves évidentes. Ensuite, moi, je pense que voilà, il y a un travail qui doit se faire et la persévérance. Mais ça, je veux dire, on peut encourager les personnes dans cette voie, comme on pourra encourager dans n'importe quelle voie, même dans le niveau du travail ou dans le cadre professionnel, dans le cadre artistique. Ça reste toujours ce même chemin. Donc, c'est tout simplement y croire. Voilà.
Il y avait encore une petite question dans le public.
Oui, en fait, enfin, c'était moi qui voulais intervenir. Et c'était sur la question du talent. Et tu viens justement de nouveau dire il faut y croire. Il y a un collectif qui est dans le village des possibles qui s'appelle La Barbe et qui analyse un peu les statistiques de présence d'hommes dans les différents événements culturels. Et donc là, ils ont fait une intervention à Liège lors d'un colloque où il n'y avait que des hommes. Et elles se maquillent avec des barbes et elles vont dénoncer... la présence exclusive d'hommes. Et elles ont analysé la fiche d'Esperanza 2018, où le thème, c'est la place de la femme. Et il y a 25% de femmes dans toute la programmation, en analysant les solos, la composition des groupes et tout ça. Et donc, je pense qu'au-delà du talent, il faut je pense, encore plus de radicalité et de force, et pas simplement... si on ne dit que c'est le talent qui fera l'augmentation du nombre de femmes dans ce type de festival, non. Je pense que, ayant été programmateur culturel, je pense qu'il faut adopter un discours un tout petit peu plus fort, comme ici, la belle hip-hop est programmée dans une case. Donc c'est déjà formidable d'être là, évidemment, mais je pense que vis-à-vis des grands programmateurs, il faut effectivement s'allier, comme tu l'as dit, entre artistes et avec les programmatrices, parce qu'il y a encore du chemin à faire et il ne faut pas s'arrêter à... Esperanza, c'est 25% de femmes aujourd'hui.
Après, peut-être par rapport à ce que vous dites, moi, ce que j'entends surtout, c'est qu'en fait, il y a un peu une révolution, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'artistes féminines, le fait que la belle hip-hop se programme, le fait que on a des artistes comme Sheila, mais aussi comme Shea, c'est très varié, en fait, le rap féminin. Et ça devient mainstream, pour répondre un peu à votre question aussi. Dans le rap US, il y a beaucoup de femmes, en fait. Donc, oui, ça, c'est du rap, du coup, qui peut paraître commercial, qu'on apprécie moins parce qu'on est peut-être plus engagé. Moi, personnellement, j'aime bien ce rap-là pour le beat. Je trouve qu'il y a des filles qui ont un très bon flow et je l'écoute pour ça. Et il y en a vraiment qui vendent très bien et qui font qui font énormément de titres. Donc, ce que moi j'ai l'impression, après peut-être vous allez me contredire, mais j'ai l'impression qu'en fait on est en train de gagner du terrain, quoi, en tant que femme dans l'hip-hop.
Moi, je pense que c'est il y a de ça aussi, qu'on est en pleine évolution, et aussi on revendique plus. Donc, inutile de revenir sur l'actualité, l'affaire Weinstein et tout ça, mais c'est vrai que depuis on va dire 2 ans. Les filles s'expriment plus, elles s'affirment plus, elles se laissent moins faire, elles dénoncent plus. Je veux dire, que ce soit les attaques sexistes ou les viols ou les agressions en tout genre, la parole est un peu plus libérée quand même. Ça passe aussi par là. Et quand même aussi, il y a de plus en plus de filles qui sont programmées. Mais moi, je dirais plus qu'il faut, ne pas se laisser faire, et il faut s'affirmer aussi. Donc l'affirmation, elle passe aussi par aller frapper à une boîte de prod, dire voilà, moi je sais faire ça, je suis capable, oser, faut y aller, faut se battre. Je veux dire, moi je faisais 800 km pour aller voir un producteur pour dire voilà, j'ai un projet de documentaire sur les b-boys. Oui, mais comment tu vas faire? C'est 10 garçons, tu vas tenir la caméra, tu vas faire comment? Je vais me débrouiller, je vais y arriver, et voilà, je suis aujourd'hui là parmi vous, mais ça c'est une volonté personnelle. Mais je pense que quand il y a des, voilà, je reviens encore à Sheila, mais hier il y avait une jeune fille qui a demandé un autographe, elle avait pas plus de 10 ans. Je veux dire, ça fait partie des évolutions. C'est-à-dire que si une jeune fille de 10 ans écoute Sheila, je veux dire, c'est prometteur pour les 5 premières années, donc les 5 prochaines années. Alors à 15 ans, c'est comme dans mon documentaire où il y a une big girl qui a 12 ans, qui dit qu'elle est capable de danser contre les garçons. Donc maintenant, elle en a 16, elle est au championnat du monde. Voilà, donc en fait, c'est une évolution qui est peut-être lente, qui est peut-être aussi, on va dire, aberrante, parce que la question ne devrait même pas se poser, mais en fait elle se pose parce que le patriarcat, je le répète encore, est tenace. Il est sournois, il est tenace, il est caché partout. Je veux dire, c'est pas oui le hip-hop, oui ah super, on a une super programmation, c'est super les festivals, ah c'est super, toutes les filles, 80% des filles ici elles sont en short, c'est génial, elles sont en soutien-gorge, en débardeur, c'est super, c'est la libération. Non, c'est totalement faux, on est encore loin du compte, mais il y a une évolution. Ça, c'est important de le dire et de le saluer. Et voilà, si on est toutes les quatre aussi ici pour débattre, je trouve ça révolutionnaire et salutaire aussi.
Bah, je crois qu'on va clore là-dessus, qu'on est en révolution là-dessus. Ce que je vous propose, je sais qu'il y a tout le monde qui a aussi son programme, les filles aussi qui veulent aller voir des concerts. Donc le débat est clôturé maintenant.